Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez bien à dormir malgré cette chaleur. Aujourd'hui, on va parler de jambon, de sarcopénie et du régime Atkins. Et si j'ai le temps, je parlerai, d'ailleurs en parlant de temps, il faut que je mette le timing, je vous parlerai d'une question auditeur, on verra. Bon, bah du coup, on va pas perdre de temps. Vous allez voir dans quelques jours pleuvoir des articles. Ça sera peut-être déjà commencé au moment où vous allez écouter le podcast. Pleuvoir des articles sur le jambon. Le jambon et ses nitrites. Vous savez, ces substances qui étaient potentiellement cancérigènes avant et qui aujourd'hui commence à être soutenu même par l'ANSES, donc l'agence sanitaire. Et donc là, les charcutiers, tous les vendeurs de charcuterie, ils vont commencer à tirer un peu la langue, parce que il faut vous dire une chose, ça ne veut pas dire que tout le monde va dire que c'est dangereux, mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, quand elle commence à dire quelque chose, en règle générale, tout le monde l'écoute et tout le monde va dans son sens à un moment donné. Donc, l'ANSES semble se ranger désormais dans le camp des opposants à ces additifs chimiques présents dans 75% de la charcuterie vendue dans la grande distribution. Les 13 chercheurs toxicologues, épidémiologistes, microbiologistes ou chimistes qui ont rédigé le rapport, ainsi que deux conseils scientifiques de l'agence et sa direction, confirme l'existence d'un risque et préconise de réduire l'exposition de la population par des mesures volontaristes en limitant l'exposition par voie alimentaire. Bon, volontariste, ça veut dire c'est à vous de vous débrouiller en fait, hein, d'arrêter de l'acheter. Mais ça sera pas imposé, donc on vous dira, mais vous êtes libre. Pour ça, vous êtes libre, hein, y a pas de problème, vous êtes libre. Bref. Bon, c'est le journal du dimanche qui publie ça. C'est vrai que normalement le document va être officiel le 12, donc mardi, donc aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent, puisque moi je l'enregistre le lundi, donc là pour vous c'est mardi 12 logiquement. Ben c'est vrai que ça va tomber pour. Alors pourquoi je voulais parler de ça? Parce que c'est vrai que énormément de pratiquants de musculation se servent du jambon, du blanc de poulet comme ça en tranche, là vous savez, là vendu sous forme de jambon pour les collations. Et c'est vrai que ben c'est pas terrible hein, de se gaver comme ça de nitrite. Alors la problématique hein, c'est le risque qu'on entend le plus souvent, c'est les risques du cancer du côlon. Donc un cancer pas fun, j'imagine. Et donc c'est vrai que moi je vous recommanderais plutôt d'éviter ce genre de choses. Enfin en tout cas j'ai toujours eu tendance à le faire, à éviter et à vous recommander de l'éviter. Alors vous allez me dire oui mais il y a des choses sans nitrite. Alors oui. J'imagine que dans un premier temps c'est mieux, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'un jour on va dire oui, mais en fait on a trouvé que dedans il y avait également des substances qui étaient dérangeantes. Faut dire une chose, c'est que ça c'est arrivé, donc les nitrites et tout, c'est arrivé de mémoire pour c'est pas arrivé pour nous emmerder, hein. C'est arrivé pour nous protéger à la base de certaines bactéries. Donc, voilà. Après, ça a été mis de manière massive, etc., pour la conservation et pour qu'il y ait moins de pertes, hein, tout simplement. Quand ce qui sort de l'usine, il faut que le maximum puisse être vendu et le minimum jeté. Voilà. Donc voilà où on en est. Après, moi, ce que je peux vous recommander en collation, si vous aviez eu l'habitude de faire ça. Essayez plutôt de cuisiner un petit peu plus gros, que ça soit votre poisson, votre viande, ou si vous faites des œufs durs, des choses comme ça. Si vous avez des restes, de vous en servir pour les collations. Ne faites pas systématiquement la boîte de thon ou la barquette de jambon pour la collation, quoi. Alors je sais, c'est pratique, c'est bon au goût, mais déjà un, il y a plein de sel dedans, et en plus, ben voilà, c'est pas top pour la santé, quoi. Donc essayez plutôt de cuisiner un blanc ou deux poulets de plus si vous mangez des escalopes de poulet. L'idée étant d'avoir un aliment brut, quoi, poulet 100% poulet, quoi, ou dinde 100% dinde, ou bœuf 100% bœuf, peu importe. Et pareil pour le poisson, et pas avoir des choses transformées. Donc voilà. On va certainement en entendre parler durant l'été. Enfin, peut-être que les gens, ils vont pas trop regarder ça, mais on aura sûrement un reportage Arte ou un truc comme ça là-dessus, quoi. Et mais pas tout de suite, parce qu'il faut qu'ils aillent interviewer les bouchers, les. Enfin voilà, c'est toute une industrie après qui est perturbée, parce que imaginez bien que si on dit ça tue ou ça donne le cancer et que maintenant tout le monde est autorisé à le dire sans rien craindre comme procès de la part de l'industrie de la charcuterie. Enfin, il faut toujours se dire que c'est un marché des emplois qui vont s'effondrer. Alors vous allez me dire oui mais bon ça rend pas en bonne santé peut-être mais il y a quand même des gens des humains derrière qui eux bah c'était leur travail quoi ils nourrissaient leurs gosses avec ça et ils payaient leur toit quoi donc bon après moi je suis peut-être naïf hein je me dis peut-être qu'ils vont tout faire pour mais en fait il y a les naïfs comme moi qui disent que voilà et les autres qui vont dire vous verrez ils vont tout faire pour planquer l'information on verra bien l'avenir nous le dira mais en tout cas c'est déjà public dans le journal du dimanche c'est déjà public sur dans les échos ou je sais plus où puisque ils ont accès certainement à des infos avant le grand public enfin en tout cas j'espère sinon ça sert à rien d'avoir un journal et voilà. Deuxième poste, deuxième sujet du jour, c'est la sarcopénie. Alors moi, je suis abonné à une revue qui s'appelle La Revue du Praticien, qui normalement, je pense, et j'espère que tous les médecins généralistes la reçoivent, cette revue. Et là, ils disent, en fait, il y a un petit article ce matin qui explique comment évaluer la sarcopénie. Alors la sarcopénie, la sarcopénie se définit par l'association de deux paramètres. Ils expliquent hein, une réduction de la force et une réduction de la masse musculaire. Souvent, on parle de perte de masse musculaire liée à l'âge, la sarcopénie, mais c'est pas que ça. Hein. En fait, on peut faire de la sarcopénie sans être vieux. C'est pas obligatoirement parce qu'on est vieux. C'est juste que la sarcopénie, elle est comment dire, elle est souvent vue chez des personnes qui avancent en âge. On peut parler de sarcopénie chez une personne qui perd de la masse musculaire, tout simplement, quoi. Bref, tout ça pour dire que, par exemple, à 30 ans, quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, il commence à perdre de la masse musculaire et on peut appeler ça de la sarcopénie. Voilà. En fait, eux, ils expliquent comment, par exemple, si vous êtes médecin, c'est comment on voit ça. Eh bien, ils expliquent la force musculaire peut être évaluée par le temps que le patient met à se lever 5 fois de sa chaise, plus ou moins 15 secondes, et ou par la force de préhension en kilos d'un dynamomètre, avec des seuils qui diffèrent selon le sexe. Anormal, donc ça devient normal si la force est inférieure à 16 kilos chez la femme et inférieure à 27 kilos chez l'homme. Un seuil de ces critères suffit pour traduire une réduction de la force musculaire. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le dynamomètre, si vous voulez savoir ce que c'est une espèce de poignée hydraulique, logiquement, ou peut-être pas toujours hydraulique, ça peut être électronique, mais en fait, vous serrez avec votre main, donc c'est la force de préhension, et on va évaluer avec ça la force en kilos, quoi. Donc, pour rappel, inférieur à 16 kilos pour les femmes, inférieur à 27 kilos pour les hommes, un seul de ces critères suffit pour traduire une réduction de la force musculaire. Donc entre ça et le temps que le patient met à se lever 5 fois de sa chaise, il faut que ça plus ou moins 15 secondes. Donc on imagine que si ça fait plus de 15 secondes, c'est moins bien. Voilà. La masse musculaire est évaluée le plus souvent par DEXA. Donc le DEXA, on le voit beaucoup dans le bodybuilding et tout, c'est pour évaluer le taux de gras, vous savez, c'est une espèce de... Alors ils disent évaluation de la composition corporelle par absorptiométrie biphotonique à rayon X, voilà, et impédance-métrie. Une masse musculaire de moins de 15 kilos chez la femme et de moins de 20 kilos chez l'homme est un critère suffisant. Donc il est possible également d'évaluer l'indice de masse musculaire inférieur à 5,5 kilos au mètre carré chez la femme et inférieur à 7 kilos au mètre carré chez l'homme sont des valeurs anormales. Donc en gros, je pense que les médecins vont peut-être s'équiper avec le petit équipement, le 10 nanomètres là, qui coûtera bien moins cher qu'une machine Dexa dans le cabinet. Et puis une chaise, je pense qu'ils en ont tous une. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est... je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que la perte de masse musculaire liée à la sarcopénie, quoi, c'est... ça prédit quand même aussi la dépendance avec les années qui passent. C'est-à-dire que moins vous avez de masse musculaire, moins vous avez de force, plus vous avez de risques de blessures, plus vous avez de risques de problèmes de santé, que ça soit des maladies métaboliques et compagnie, diabète, enfin bon, toutes ces maladies. Mais également, le vieillissement en bonne santé se fait avec un bon niveau de masse musculaire. Et ça serait intéressant pour les médecins généralistes, j'imagine. Mais après, je pense que ça, ce sont des directives qu'ils reçoivent de je sais pas où, de commencer à faire ce genre de test en amont, avant que la personne se plaigne. En fait, on voit beaucoup, et je trouve ça, c'est très bien, voilà, il y a beaucoup de dépistage pour les cancers et toutes ces choses et toutes les maladies, donc c'est très bien. On arrive à dépister beaucoup plus tôt les cancers qu'avant. Est-ce que ce serait pas intéressant de prédire, par exemple, ah, à 30 ans, vous étiez, monsieur, à 38 kilos de force de préhension. Aujourd'hui, vous êtes passé à 34. Il faudrait commencer à faire un petit peu d'haltère, là, monsieur, parce que vous êtes en train de vous sédentariser, etc. Je trouve que ce serait intéressant. Parce que ce serait, alors certes, c'est pas de l'immédiateté. Parce que c'est un investissement pour le futur. Évidemment, la personne, peut-être qu'elle aura rien à 40, 50, et puis arrivée à 60, elle commencera à se plaindre. Mais, si on peut retarder le moment où la personne se plaint, j'imagine que c'est intéressant. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui prenne beaucoup de temps. Alors, je sais que les médecins généralistes, c'est 10, 15 minutes pour une consultation. 15 minutes, je suis généreux. Quand on voit le nombre de pathologies liées à la sédentarité, à la perte de masse musculaire, à la perte de force, ce que j'aime bien là avec ça, c'est que c'est chiffré, c'est-à-dire que il y a le temps, les secondes, mais il y a également les kilos et la machine, l'appareil. Et nous, on s'en rend compte parce qu'on est dans le monde du sport, mais imaginez quelqu'un qui vient de nulle part. Hein. Quand je dis nulle part, c'est nul, aucun sport, enfin pas de pratique de musculation ni rien. Nulle part, ça veut rien dire d'ailleurs. On lui met cette machine entre les mains, elle commence à appuyer, et puis le chiffre, on lui dit « Ah, c'est pas terrible ». Elle a quelque chose de visuel, alors ça aura peut-être plus d'impact sur son mode de vie. Alors évidemment, il y en a qui vont essayer de prendre le raccourci. « Je manque de masse musculaire, bon, ben je vais manger des protéines ». À un moment donné, là, on devient, enfin, c'est marginal par rapport à l'exercice. Donc, mieux vaut s'exercer. Et je trouve que c'est intéressant de commencer à faire le test, voilà. Bon, après, surtout que ça prend pas... Ou à la médecine du travail. La médecine du travail pour être un... Enfin, je sais pas, s'il y en a là qui m'écoutent et qui sont décisionnaires ou qui pondent des idées là-dedans, il me semble que c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est peut-être un des premiers grains de sable dans le mécanisme, la perte de masse musculaire, la perte de force, pour les pathologies à venir. Donc, si on peut solutionner ça, en tout cas en avertissant en amont les gens, avant qu'ils commencent à se plaindre de ça, avant qu'ils commencent à dire « Ah, j'arrive plus à monter les escaliers » ou « J'arrive plus à porter telle ou telle charge » ou peu importe, ça peut être intéressant. Voilà, bon, je m'arrête ici. Le nouveau régime Atkins, donc c'est un article de lanutrition.fr. Est-ce que c'est un article, bon, il parle du bouquin. Je l'ai, le livre, hein, donc je l'ai pas lu en entier, parce que finalement, c'est un livre très grand public. C'est pas quelque chose qui, au début, je l'avais pris, je m'étais dit, tiens, il va y avoir des choses qui me... Mais bon, c'était plus pour avoir un repère historique sur ce régime, plus que d'apprendre des choses. Donc, il nous donne un petit peu d'histoire dans cet article. Des choses intéressantes, comment est né le nouveau régime Atkins? Alors ils disent, hein, ce régime a été initialement mis au point par le docteur Robert Atkins, un médecin américain. Il s'agit d'un régime pauvre en glucides et riche en graisse, blablabla. Donc il parle de tout un tas de choses. Robert Atkins prend plus de 20 kilos quand il est dans son cabinet, pendant ses études, hein, supérieures. Enfin, ouvre un cabinet privé à New York, ok. Pendant ses années d'études supérieures, il a pris 20 kilos. Et ça, en 63, c'est le choc. Donc, en 1963, en regardant la photo de lui, il réalise qu'il a 3 mentons et paraît 15 ans de plus que son âge. Bon, voilà. Il est aussi de plus en plus préoccupé par la pratique consistant à prescrire aux patients des médicaments coupe-faim tels que les amphètes, comme c'était le cas dans les années 60. En se documentant, bon, il voit tout ça et puis il fait des tests. En 72, il publie l'Atkins Diet Revolution, un livre dans lequel il fait état de ses découvertes. Donc par rapport à son alimentation. Et en 2003, suite au décès soudain d'Atkins, la polémique ressurgit. Atkins aurait-il été victime des effets néfastes à long terme de son propre régime? Il s'avère finalement que le docteur Atkins est mort des suites d'une mauvaise chute sur un trottoir glacé. Cependant, à sa mort, cet adepte de son propre régime révolutionnaire pesait la bagatelle des 117 kilos selon les instances officielles de l'hôpital, soit selon ses proches, 28,5 kilos de plus que son poids estimé à son entrée à l'hôpital quelques jours plus tôt. Selon sa veuve, cette augmentation fulgurante serait liée à une détérioration brutale de son état de santé. Bon, après ça, j'en sais rien. Je trouve ça un peu... On rentre un peu dans le domaine de l'intime. Moi, ça me pose toujours problème, ce genre de choses. Quand on rentre autant dans l'intime, pauvre gars, il est mort. En plus, on vient l'emmerder sur son poids de corps. Mais bon, bref. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que y a beaucoup, vous savez, de gens qui essayent de mettre des taquets au régime pauvre en glucides, parce qu'ils disent oui, mais vous verrez, à long terme, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça. Donc en gros, si jamais vous avez la malchance de faire un régime pauvre en glucides et de ne pas être immortel, on va venir vous taper dessus. Mais je pense pas que personne n'a dit que c'était le régime qui vous empêchait de mourir. On va tous mourir un jour, faut l'accepter, enfin voilà, c'est comme ça. Et faut pas dire, vous voyez, il faisait un régime pauvre en glucides et il est mort. Tout le monde meurt, hein. Sauf que celui qui mange McDo, ou, enfin je vais pas dire McDo, de la bouffe transformée, s'il meurt, il meurt de cause naturelle, en fait, parce que il avait une alimentation équilibrée, il mangeait de tout. Mais attention, celui qui fait le régime pauvre en glucides avec un peu plus de graisse, type avocat et huile d'olive, s'il meurt, c'est parce qu'il a mangé trop de graisse. S'il meurt, c'est parce qu'il a fait un régime pauvre en glucides. Vous voyez où on en est, parce que c'est ça, hein, c'est le discours, c'est ça. Donc on essaye un petit peu enfin bon, bref. Quelles sont les règles du régime Atkins? Alors, le régime Atkins, le nouveau régime Atkins, en tout cas, c'est de ne pas compter ses calories, de manger autant d'aliments autorisés qu'il est nécessaire pour arriver à satiété. Alors, les aliments autorisés, vous allez me dire, c'est quoi? Ben, les aliments autorisés, c'est des végétaux, ce sont des protéines maigres, ce sont certaines sources de graisse, etc. Donc, il donne tout un détail dans l'article, hein, vous pouvez aller voir. Ne pas manger si vous n'avez pas faim. Bon, ben ça me semble logique. Ne vous sentez pas obligé de finir votre assiette parce qu'il reste de la nourriture dedans. Bon, ça me paraît logique aussi, mais c'est vrai que ces deux points-là, ça paraît logique à tout le monde, mais il faut pas oublier qu'on est conditionné par des habitudes. Et que les repas, si vous enlevez les repas aux gens, donc par exemple là demain, enfin même aujourd'hui, imaginez-vous ne pas prendre de petit déjeuner, ne pas prendre de repas à midi, ne pas prendre de repas ce soir. Est-ce que votre vie, si admettons vous avez pas faim, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Alors je sais il y a des gens qui sont très pris, des entrepreneurs et tout, ils disent ouais, je peux faire ci, je peux faire ça, ok. Mais il y en a pour beaucoup de personnes, ce sont des moments où ils prennent plaisir à parler avec leurs collègues, avec leurs chéris, avec leurs enfants, leurs amis, leurs parents, j'en sais rien. Et c'est vrai que ça peut être un peu morose de plus passer à table pour certains. Donc la règle suivante, buvez autant d'eau et de boissons édulcorées que votre organisme le réclame. Je suis contre les boissons édulcorées. Enfin, en tout cas, à volonté. C'est bien pour faire une transition d'une boisson sucrée à une boisson sans sucre, enfin à de l'eau, par exemple. Mais les boissons édulcorées à volonté, je suis pas fan. Ne restreignez pas les liquides, mais n'en abusez pas non plus. Des petits repas fréquents sont à privilégier. Donc ça, on est vraiment dans l'approche américaine des années 80, 90, enfin surtout 90, début 2000 même. Si vous vous sentez faible à cause de la rapidité de la perte de poids, c'est que vous manquez peut-être de sel. Prenez tous les jours un complément de multivitamine. Donc voilà, c'est plus ou moins les règles qui à suivre. Alors plus ou moins. Là, je vous ai rien donné comme règle. on va dire, détaillé. Mais qu'est-ce que dit la nutrition ? La force de séduction de ce nouveau régime Atkins réside dans le fait que l'on peut manger varié, des protéines, des bonnes graisses, des légumes, des noix, des baies, et sans limitation de calories. Seuls les glucides doivent faire l'objet d'une attention particulière. Moins frustrant qu'un régime pauvre en graisse, le nouveau régime Atkins se sent plus efficace à long terme sans poser de risques particuliers pour la santé. Reste la question du comptage des glucides, contraignant au début. Il faut un peu de temps pour prendre ses marques. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Moi, je pars du principe que les régimes qui échouent sont les régimes où on pense qu'un jour, on va pouvoir remanger comme avant. Et ce avant, c'était le régime qui nous a conduit à devoir faire un régime. Et en fait, tant qu'il n'y a pas d'acceptation de ça, c'est-à-dire qu'une personne se dit « Ok, j'en ai bien profité pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, maintenant c'est bon, il faut que je fasse attention à ce que je mange », il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi un régime échoue ? Pourquoi les personnes reprennent du poids ? Parce qu'en fait, il y a toujours en sous-texte, quand la personne se remet à manger normalement, elle reprend tout son poids. Oui, mais quel est le « normalement » en fait ? Parce que la norme pour cette personne, si c'est tacos, fast-food, milkshake, petits gâteaux, toutes ces choses-là, c'est pas normal. C'est une alimentation commune, puisque on la voit partout, mais c'est pas normal. Normal pourquoi ? Normal pour un être humain, je pense pas. Et c'est vrai que de devoir... Moi, ce qui me paraît étrange, c'est que ce genre de régime, comme le régime Atkins, on en fait un régime, waouh, c'est un régime, ah là là, spécial et tout. Mais non, c'est un régime qui revient plus ou moins à manger ce qu'on aurait pu trouver dans la nature, quoi. Des végétaux, de la protéine, des noix, des baies, et puis faire attention aux glucides. Pourquoi ? Parce que des glucides, mis à part du riz, de la patate douce, des pommes de terre, on trouve pas des pâtes, on trouve pas du pain de mie. Dans la nature, on trouve pas des sablés, des petits sablés, on trouve pas de la farine comme ça à l'état brut dans la nature. Il y a un process de transformation, etc. Donc peut-être qu'il faut vivre avec son temps, mais après, enfin moi personnellement, je vous le dis honnêtement, je ne pourrais pas me gaver de féculents au quotidien à tous les repas sans en payer la facture. Je suis peut-être pas adapté pour le mode de vie moderne qui est une alimentation hyper glucidique avec des IG hyper élevés et des charges glucidiques hyper élevées aussi. Moi, je suis pas adapté à ça, mais au moins j'en suis conscient et je préfère éviter de me gaver parce qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et à 20 ans, je pesais déjà 92 kilos et j'étais largement en surpoids. Donc si j'avais pas fait attention, où est-ce que j'en serais à 35 ans ? Il me semble que j'ai quand même gagné 15 ans avec, on va dire, un ventre plat. Et voilà, c'est toujours ça de gagner. Donc, je partirai peut-être avant les autres. J'en sais pas, puisque à écouter les gens, je suis censé, ou on est censé être immortel si on fait une approche alimentaire un petit peu en marge de ce qui se recommande à la télévision ou sur les plateaux des chaînes santé. Mais... moi, je trouve que c'est juste du bon sens, quoi. À un moment donné, il y a pas besoin de chercher plus loin, quoi. Et ce régime Atkins, après, il faut pas oublier derrière que c'est une industrie Atkins. Hein. Nous, on le voit pas trop ici, mais à l'étranger, Atkins, enfin aux États-Unis, il y a vraiment un business monstre derrière. Je crois même qu'il y a des aliments et tout. Hein. C'est quelque chose de, c'est un rouleau compresseur. Hein. On peut, à ce niveau-là, ils ont plus le droit de critiquer l'industrie. Enfin voilà, eux aussi, c'est une industrie, quoi. J'imagine. Il faudrait regarder, mais ça doit être des chiffres assez importants en termes de revenus, quoi. Et ça doit embaucher du monde et tout ça, quoi. D'ailleurs, je vais essayer de regarder. Bon, le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est 28,6 millions de dollars par an. Donc ça va, c'est pas mal, hein. Pour info, Danone, il est à 198 milliards. Qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait donner un... Bon, après, on n'a pas trop de points de comparaison... avec des marques françaises, c'est pour ça que j'ai pris Danone. Mais bon, voilà, à peu près 28,6 millions par an de chiffres. Alors, je passe à la suite pour vous dire. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas la petite diète. Voilà, il y a quand même quelque part, c'est une industrie, c'est quelque chose qui, c'est un rouleau compresseur, quoi. Mais bon, si ça aide des gens à maigrir, moi je suis pas contre. Hein. Et chacun, je préfère qu'une entreprise fasse son blé et sa fortune sur quelque chose qui est vertueux, qui aide les gens, Et bon, tôt ou tard, si tout va bien, tôt ou tard, logiquement, ce genre d'approche deviendra la norme. Il n'y aura plus besoin d'avoir une société pour ça. Mais moi, je suis toujours un peu naïf, vous savez. J'aime bien penser ça. Ah oui, je voulais vous parler également de la question d'un auditeur que je vais retrouver ici, qui était la suivante. Donc, salut, ma question concerne la perte de poids rapide qui est non idéal pour la musculation. Donc, tu m'affirmes une réponse là dans ta question. En période où je me sens trop gras, j'ai tendance à vouloir manger le moins possible et privilégier la protéine et les légumes. Donc, ok, 2 repas maximum par jour et je cours à jeun. J'ai souvent des creux après ces efforts. Est-ce réellement le signe que c'est de la graisse qui brûle ou je me fais des films, etc. Bon, si c'est ça ta question. Effectivement, quand on a faim, on a plus de chances d'avoir. Alors la faim, qui est sécrétée, qui est un peu ordonnée par la gréline. Logiquement, si tu ne manges pas quand t'as vraiment faim, hein, ton corps va devoir se débrouiller autrement. Donc elle est puisée dans des réserves. Bon, tu catabolises, hein. Faut faire attention, hein, quand même. Même si c'est après du cardio, il y a quand même une forme de catabolisme. Là où tu dis j'ai tendance à vouloir manger le moins possible et privilégiant les protéines et les légumes, bah alors déjà 2 choses. Si t'as besoin d'aller vite, c'est que tu t'y prends trop tard. Pour moi, l'image que j'ai quand tu me dis ça, c'est quelqu'un qui a un examen. Il sait que sa date d'examen est dans 6 mois, mais il se met à réviser que 3 semaines avant. Toi, tu sais que peut-être tu vas avoir besoin de perdre à un moment donné parce que t'as déconné et tu t'y mets au dernier moment de manière brutale. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que tu ne te vois pas grossir et que du coup, à un moment donné, tu te réveilles, tu te regardes et tu dis « Ouah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou alors tu montes sur la balance après un cheat meal un peu trop salé et tu fais de la rétention d'eau, c'est 2 kilos de plus et tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? J'ai déconné. » Globalement, t'es pas obligé de faire que 2 repas. Hein. Tu peux manger le matin, midi, soir avec des collations et avoir un apport assez modeste en calories. Il suffit juste pour ça que ce soit les végétaux ton plat principal. Quand je dis ton plat principal, c'est que tes légumes, ta salade ou tes légumes cuits ou peu importe, c'est ce qui domine dans tous tes plats. Donc ta protéine, par exemple, ton morceau de viande, c'est moins important. Ça veut pas dire que c'est tu prends des petites doses de viande. Hein. Ça veut pas dire que tu prends 30 grammes de viande. Mais par exemple, si tu prends 100 grammes de blanc de poulet ou 150 grammes de blanc de poulet, je sais pas, une escalope de poulet de 150 grammes, eh ben t'as 300 ou 350 grammes de légumes. Donc la protéine devient un accompagnement puisqu'il est minoritaire par rapport aux végétaux. Les végétaux, tu peux y aller, hein, tu peux en manger, sauf si tu tombes dans la bouteille d'huile d'olive pour l'assaisonner. Mais si tu respectes tes quantités de graisse, que tu mets ta petite cuillère à soupe comme ça, enfin petite cuillère à soupe, ta cuillère à soupe, on va dire, par repas, bon, ça va, c'est raisonnable. Après, là, ton approche, 2 repas max par jour et je cours à jeun, donc ça veut dire que le matin, tu prends pas de petit déjeuner, tu manges midi et soir. Donc c'est du jeûne intermittent. Moi, j'aimerais plutôt que tu travailles, si tu me demandes mon avis, sur le pourquoi tu as besoin de faire ça. Pourquoi tu reprends du gras, en fait? Alors, tu vas me dire peut-être que c'est parce que tu fais des prises de masse. Mais la prise de masse n'est pas censée te faire prendre du gras à hauteur de devoir le perdre très rapidement. Logiquement, une prise de masse, t'as le temps de le voir arriver, le gras, si tu le fais correctement. Puisqu'il y a un moment donné où tes mensurations, c'est-à-dire ton taux de gras au niveau de la taille, commence à continuer à augmenter alors que les autres mensurations ne bougent plus. Parce que c'est ça, en fait, une prise de masse quand elle fonctionne bien, c'est tu prends tes mensurations tour d'épaule, tour de pec, tour de bras, tour de cuisse, etc. Et tour de taille, évidemment. Et chaque semaine, tu regardes ces ratios, ces augmentations. Et quand tu vois que ton tour de taille augmente plus vite que le reste, tu dis hop 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 hop, on lève un peu le pied sur les calories, sur les glucides. Et quand tu vois que tout a fini d'augmenter, sauf le tour de taille qui continue, là tu dis c'est peut-être un moment de déconner un petit peu, de faire un régime. Mais tant que les mesures augmentent, tour de bras et tout, même à peu près au même rythme que le tour de taille, voire un petit peu plus rapidement, là il y a pas trop de raison de s'inquiéter logiquement. Hein. puisque dans tous les cas, si c'est au même rythme, c'est des millimètres, c'est pas des centimètres. On prend pas un centimètre de bras comme ça. Donc t'as le temps de si les abdos disparaissent, et on parle plus de millimètres là, on parle de centimètres. Donc c'est que l'apport a été trop rapide et trop important. Donc j'ai souvent des creux après l'effort. Est-ce que c'est signe que on brûle du gras ou je me fais des films? Donc j'ai répondu en introduction. À terme, oui, tu vas brûler du gras, mais alors c'est vrai que quand on est au régime, c'est bien d'avoir faim. Un bon signe au régime quand même, c'est d'avoir un peu faim, quoi. Si t'as jamais faim et que t'es au régime, ça pue, quoi. C'est pas normalement. On a besoin un petit peu, puisque le corps c'est un mécanisme de défense, hein. Enfin de défense, non. En fait, le corps cherche à préserver tes réserves de graisse. Donc il préférera que t'ailles t'alimenter plutôt qu'il ait besoin d'aller chercher dans ce gras. Et c'est vrai que la faim est un moyen qu'a le corps de te signaler que la glycémie baisse, par exemple, ou que t'es possiblement carencé dans certains micronutriments, quoi. Ça, c'est mon hypothèse. J'imagine qu'elle se vérifiera à un moment donné, puisque c'est pour ça qu'on a de l'attirance vers du salé, vers du sucré, etc. Moi, mon hypothèse serait que c'est pas forcément vers du sucré, mais plus vers ce qui pourrait être contenu historiquement dans les produits sucrés, donc peut-être plus des vitamines, etc. Enfin bon, bref, ça c'est mon hypothèse, mais peut-être que je suis trop naïf par rapport à l'intelligence du corps. Mais oui, tu brûleras, mais si tu veux pas finir gras avec très peu de muscles, je te recommanderais quand même de pas trop couper dans tes protéines, de plutôt augmenter tes végétaux, quoi, de manière à tamponner la réduction glucidique par de l'augmentation de produits d'origine végétale. Ce qui veut pas dire que tu auras plus de glucides, hein, parce que dans les légumes, il y a des glucides, mais bon, c'est sous une forme qui est mieux tolérée quand on est au régime, et surtout qui va plus te couper la faim, et puis ça t'apportera beaucoup d'eau également. Donc voilà pour ma réponse. Ensuite, la diète méditerranéenne en musculation. Alors, je sais que vous avez été nombreux à me poser la question par rapport à la diète méditerranéenne en musculation. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Comment? Etc. Parce que j'en ai déjà parlé dans la Mind Diet, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de choses, d'ailleurs, de cours, etc. Mais là, j'ai voulu consacrer un cours complet à ça. Donc on parle des avantages sur la santé, du microbiote, des chronotypes du matin, intermédiaire et soir, du concept de soi et de l'approche méditerranéenne, de la pyramide de l'alimentation méditerranéenne, des adaptations simples pour les sportifs, etc. Donc c'est avec les lunettes du sportif, hein. Donc vous avez à peu près une heure de cours en vidéo ou en audio selon comment vous le consultez, et en audio vous avez juste à réduire la vidéo en fait, hein, et les notes en PDF, et vous avez également après le deuxième cours à voir qui est Mind Diet, la nutrition du cerveau. Donc je vous encourage à aller voir, vous avez tous les liens dans les notes du podcast si ça vous intéresse, et on se retrouvera de l'autre côté pour une partie plus pédagogique. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours, hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement, donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.